Merci beaucoup Olivier. Et comme Olivier l'a dit à plusieurs reprises, c'est un séminaire, donc la parole s'échange. À vous de réagir.
Oui, donc Yael Boublil, ma question portait un petit peu dans tous les dispositifs que vous présentez. Ce sont des dispositifs qui me semblent très individuels. Quelle est la part du collectif dans l'usage qui en est fait? Je pense en particulier au cahier pour le lycée, puisque le lycée professionnel a désormais une exigence de ce qu'ils appellent l'écriture longue, avec une phase obligatoire de réécriture. Est-ce que vous avez des expériences qui ont été menées avec une utilisation un peu collective ou éventuellement une vidéoprojection de certains extraits? Je vous laisse.
Alors évidemment, vous avez tout à fait raison de poser cette question-là, parce que l'enjeu d'une didactique du pré-rédactionnel qui se mettra en place, c'est celle de notre capacité enseignant dans la classe à créer une communauté culturelle autour d'une écriture programmatique et processuelle articulée. Hein, parce qu'évidemment, pour la démonstration, je me suis focalisé sur le pré-rédactionnel, mais vous voyez très bien comment Groupe EVA et toute la recherche didactique des années 90 se greffent là-dessus sans difficulté, évidemment. Hein, ce n'est pas exclusif de quoi que ce soit. Donc, il faudra arriver à créer une communauté, une collectivité au sein de la classe pour que ça marche. Alors, comment ça prend? Comment la patte arrive à prendre? Et que du coup, ce soit des écrits de référence pour l'ensemble de la classe. Et par exemple, pour les dessins, il y a eu de la résistance dans les premières séances. Et c'est bien normal. Il y a eu de la résistance puisque jamais les élèves n'avaient eu à faire ce genre d'activité-là. Eh bien, les premiers, les élèves pionniers qui ont accepté d'utiliser le dessin pour voir, ont été les premiers à présenter leurs travaux, à montrer aux autres ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait, et ce qu'ils avaient ressenti en utilisant le dessin. Et c'est à travers cet échange et ce questionnement croisé que certains élèves, après, ont pris une feuille pour faire un dessin en disant « Bah tiens, lui, il l'a fait, pourquoi pas moi? Après tout, peut-être que ça me servirait. » Donc là, il y a une sorte de généralisation de protocole d'écriture qui se fait via la présentation et le fait de narrer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, dans la mesure de la conscientisation. On en a parlé ce matin, évidemment, hein, c'est pas le souci, il s'agit pas de... Bon. Concernant le lycée, là où nous avons rencontré des choses intéressantes, c'est que lorsqu'on était au départ dans la confrontation des copies entre elles, c'est-à-dire la façon dont les élèves reçoivent naturellement la copie des autres, et qu'on leur demandait, évalue. Les critères qui sortaient, c'était, c'est cohérent, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute. Mais il n'y avait strictement rien sur le projet, les intentions. À partir du moment où on a pris les productions des élèves via l'enseignante et que l'enseignante s'est adressée à tous les élèves en disant « Ce texte de votre camarade, par exemple celui de la jeune fille qui a fait son carnet, son cahier bien décoré, etc. Bon, » on a pris son texte qui était assez long et qu'on s'est intéressé à ce texte comme si c'était la production d'un écrivain en essayant de l'étudier comme un objet littéraire sans penser que c'était un objet scolaire. Eh bien, les élèves se sont libérés en disant « Ah bon, j'ai bien aimé, par exemple, j'aime bien la façon dont tu as créé la psychologie de son personnage, là. Mais en même temps, il y a un passage où elle dit qu'elle est, elle-même, elle dit qu'elle est égoïste, oui, je suis égoïste, etc. Moi, je trouve qu'elle en fait un peu trop, parce qu'au début, c'est un personnage un peu plus effacé. » Et on voit comment, du coup, les élèves entrent dans autre chose qu'une grille qui a été finalement le résultat de l'apprentissage de la grille EVA, hein, cohérence, cohésion, pertinence, vers une autre approche sensible, plus littéraire du texte. Donc ça a été quelque chose d'intéressant. Ensuite, ce qui a été mis en réseau de collaboration, en collaboration collective, ça a été les problèmes d'écriture. Parce que lorsqu'on donne une aire d'écriture, A-I-R-E, une aire d'écriture aux élèves, parce qu'eux, ils n'ont pas de gueuloir comme Flaubert, et qu'on leur dit, vas-y, tu peux, là, dans ce cahier, utiliser ton aire d'écriture, eh bien, ils disent à l'enseignante, madame, monsieur, là, j'aimerais bien écrire telle situation avec tel personnage, mais je n'arrive pas à le faire. Il me manque des outils. Par exemple, comment on raconte une rencontre amoureuse? Comment ça se fait? Comment on la raconte, une rencontre amoureuse? Eh bien, ce sont des choses qui ressortent des cahiers. Et donc, l'écriture devient résolution de problèmes narratifs. Au fond, on est en train de construire ce que Paul Valéry aurait aimé construire, c'est-à-dire une poétique où on voit les possibles, les nœuds, les carrefours, et on retombe véritablement sur l'essence de la critique génétique, qui est d'étudier tous les possibles qui s'ouvrent à un texte en se disant que la production finale n'est pas en réalité l'ultime production, qui aurait pu avoir beaucoup d'autres productions de versions possibles. Donc c'est une autre vision de la littérature qui se développe là, et une autre vision de l'écriture comme expérience esthétique, comme expérience poétique. On manipule, on essaie, on revient sur la question du bricolage, sur la question de l'atelier d'écriture, mais pas tout à fait de la même manière, pas tout à fait dans le même cadre.
Bien, je vais essayer de faire une question. J'ai aimé beaucoup votre exposition. Plusieurs des choses me font penser. Mais je voudrais toucher dans une question. Les enfants ont beaucoup de choses dans sa tête, mais ne vient pas quand les enfants ont besoin d'écrire. Je pense que cette question a relation entre la nature de les discours oral et les discours écrits. On présente dans cet problème, je pense. Je voudrais que vous parliez sur cette question dialectique du processus de la constitution des de discours oraux et des discours écrits.
Il me semble, je ne suis pas historien de l'écriture, mais il me semble qu'il y a eu une période où on s'est servi beaucoup de l'oral pour écrire, et en pensant que l'oral pouvait être un appui très fort pour passer à l'écriture. Et puis on s'est rendu compte que, à travers évidemment l'approche linguistique des interactions, les travaux de Kerbrauer et Chioni, et puis de toute la pragmatique de la conversation, que finalement l'oral avait ses lois qui n'étaient pas les lois de l'écrit. Et que ces transferts ou ces passerelles oral-écrit pouvaient générer parfois plus de problèmes qu'on ne les réglait. Il est vrai qu'écrire un texte narratif, par exemple, c'est écrire un texte qui est un carrefour d'absence, souvent. Les personnages écrits au passé ne sont pas là. Si j'écris un récit au Moyen-Âge, le Moyen-Âge n'existe plus. Donc c'est un carrefour d'absence. Et quand je lis un texte de Flaubert, Flaubert n'est plus là non plus pour me dire ce que je dois lire et penser, alors qu'à l'oral, il y a possibilité de rectifier, de demander une précision, etc. Donc les interactions oral-écrit, de toute façon, c'est l'interaction de deux systèmes très hétérogènes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'interaction. Mais en tout cas, il faut, je crois, avant tout saisir les spécificités de chaque discours. Alors, comment est-ce qu'on peut penser, dans le cas de notre écriture programmatique, processuelle, articulée, comment on peut penser l'oral? Il me semble que l'exercice de la dictée à l'adulte est un exercice d'écriture programmatique. La fameuse dictée à l'adulte qui permet justement de revenir sur cette fausse progression du simple au complexe. Parce que si on va du simple au complexe, alors il ne peut plus y avoir de dictée à l'adulte, vu qu'on fait écrire des récits complexes à des élèves qui ne savent pas tenir un crayon. Bon, mais l'enseignant qui est le secrétaire est bien en train de travailler avec des idées, des intentions et des programmes d'élèves qui sont tout petits. Et tout à l'heure, je posais la question du développement. Avec l'idée qu'il y aurait plutôt le pilotage par les données ou le pilotage par les visées. Mais dans une dictée à l'adulte, c'est aussi le pilotage par les visées. Quand un enfant dit « Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ?» Ben, les enfants, il faut écrire une invitation aux parents, puisqu'on les reçoit ce soir. Qu'est-ce qu'on écrit ? Oui, vas-y, qu'est-ce qu'on écrit ? Eh ben, tu écris « Viens ». Voilà. « Viens », tu écris « Viens », c'est du processus. Mais c'est aussi après un programme, parce qu'il y en a un autre qui va dire « Mais t'as pas dit à qui ? Il faut que tu dises qui c'est. Tu parles à qui ? À ma maman ou à ta maman ?» Donc il y a déjà un cahier des charges qui se dessine. C'est une écriture programmatique. Donc la verbalisation des protocoles verbaux à l'oral me paraît tout à fait intéressante. Donc il y a cette dimension justement du travail de, d'intention autour des échanges de l'oralité. Et puis après, il y a toute une manière aussi de diffuser les travaux du cahier à l'oral en classe pour partager ses problèmes avec les autres. Et l'oral peut servir cette résolution des problèmes par les interactions dans la classe.
Oui, moi je... Merci d'abord pour ton exposé, pour plein de raisons. On n'a pas fini de discuter, donc on va y revenir. Mais pour juste faire un tout petit point sur cette question de l'oral, je pense qu'effectivement, c'est un temps... Enfin, ce que tu viens de dire, relié à la question de l'atelier d'écriture, enfin, je pense que c'est quand même une dimension à laquelle il faut réfléchir et qui me paraît fondamentale dans les progrès qu'on pourrait faire maintenant en matière d'enseignement de l'écrit à l'école. Je crois que tout ce qui est de l'ordre de l'échange, de la verbalisation, et de la verbalisation sauvage, justement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dimension méta, pré-cadrée, pré-établie, qui est de l'ordre de la grille de type Eva, hein. On est dans, justement, dans l'improvisation et dans la découverte mutuelle par petits groupes de ce qui se passe dans tel texte qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Je ne sais plus à quel propos, en début d'exposé, là je l'ai noté, mais tu as évoqué le fait qu'un élève découvrait dans le cahier d'un autre une possibilité qu'il se met à exploiter. Je crois que c'est vraiment dans cette dimension d'atelier, mais là on retrouverait l'atelier, justement l'atelier du peintre façon 19e siècle, où on se regarde sur l'épaule les uns les autres, et où on découvre des trucs. Et à ce moment-là, on retrouvera aussi véritablement le bricolage au sens lévi-straussien, Michel de Certeau, etc. Comment toute la classe peut devenir une magnifique boîte à outils. Et là, on est vraiment dans de l'explicitation, on est vraiment dans du méta, mais pas un méta formaté à l'avance, un méta qui part vraiment de l'expérience que chacun a fait de l'écrit à son niveau, qu'on soit en cycle 2 ou qu'on soit en classe de première ou terminale. Ça me semble vraiment un point sur lequel on peut travailler, on doit travailler et on doit pouvoir faire avancer nos collègues. Alors cela dit, je sais très très bien, on l'a évoqué ce midi avec quelqu'un, que la dimension de l'atelier d'écriture avec un échange où on apprécie, on relativise, on compare dans des classes de terminale à 35, c'est quand même...
Oui, oui, tu as raison. Alors, j'ai tendance à dire à mes étudiants, quand ils renâclent un peu, je leur dis, c'est pas parce que c'est difficile que forcément faut pas faire. C'est pas parce que les classes sont nombreuses qu'il faut pas faire et en rester aux modèles généraux, etc., sous prétexte que je sais que c'est difficile et il faut pas minorer cette difficulté matérielle-là et on peut tirer notre chapeau aux enseignants. Je pense qu'il y a aussi des moyens de sérier les choses. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu parles de copiage ou de problèmes de manière de régler un problème d'écriture, on voit bien qu'il y a des étudiants qui convergent vers le même problème. Ça peut être tout simplement, là, si je vous avais lu le texte de Camille, là, ce texte très intéressant, et j'ai pas le temps de vous lire la nouvelle parce qu'il faudrait aller jusqu'au rédigé, hein, c'est là où ça prend tout son sens. Mais à un moment donné, sa mère fait une dépression. Et elle avait pris dans son cahier de notes « dépression ». Elle avait mis la définition « état, gna. Et quand elle écrit, elle met « et ma mère était en dépression ». Elle vivait dans un état, nanana. Donc elle a fait un copier-coller, mais on sent qu'en fait...
C'est du Houellebecq, ça, non?
Ouais. ou alors du Zola avec la matière documentaire. Et ce n'est sans doute pas la seule à avoir ce problème-là, c'est... Comment on insère du savoir documentaire dans un texte? Eh ben, voilà, si on en a 10 comme ça et qu'on peut travailler sous forme de petits groupes autour de ces questions-là, je trouve que c'est tout à fait intéressant dans la manière d'aborder l'écriture.
Donc, Viviane Depardieu, il y a une question qui m'a beaucoup intéressée, c'est à la fois celle des profils d'élèves et celle de la navigation multiforme que vous proposez. Et bon, moi, avec un pied dans la classe régulièrement, je me disais, est-ce que vous avez réfléchi, votre équipe, ou est-ce qu'on pourrait imaginer l'idée d'outils qui permettraient aux enseignants, justement, de se repérer ou de proposer des activités qui soient proches des profils d'élèves? Parce que vous le dites très bien, oui, le recours au graphisme, à l'iconographie, elle est très intéressante pour certains élèves, mais pour d'autres, elle peut être contre-productive.
Là, c'est tout un champ. Hein, y a un boulevard pour les chercheurs dans tous les domaines. parce que les psychologues, les cognitivistes, les littéraires aussi, hein, il n'y a pas de raison de se faire déposséder de ces histoires de profils. Bon, alors, les profils, je me méfie toujours un peu, parce que j'ai dans la tête la garandrie, t'es au visuel ou t'es auditif. Hein. Donc, t'es à processus ou t'es à programme. Au fond, on s'en fiche de ces deux catégories, je veux dire... Mais, par exemple, est-ce que le dessin est plus profitable aux garçons qu'aux filles? Je n'ai pas de réponse. Mais, en regardant, il me semblait que proportionnellement, c'était plutôt les garçons, l'espace, la géométrisation, l'abstraction, qui faisaient plus de dessins que les filles. Mais je peux me tromper, ça n'a aucune valeur scientifique ce que je dis là. Est-ce que c'est plutôt les projets qui génèrent un type d'écriture, les données du projet, les données des contraintes? Est-ce que ce sont des profils, ou en effet, psychocognitifs? Je crois que le travail de l'enseignant, il est double. Il est d'être ouvert et tolérant pour enseigner toutes les démarches possibles. Il n'a pas à avoir de parti pris, lui. Il est à la fois dans le brouillon rédigé, à la fois dans l'anticipation, dans le programme, dans le bricolage. Il faut ouvrir la gamme des possibles. Il faut prendre une certaine liberté, une certaine autonomie par rapport aux apprentissages notionnels. Ne pas être toujours dans l'objectif, le type descriptif, avec le contrôle portant sur le type descriptif. On en parle maintenant, ça y est, ça fait plusieurs fois, de connaissances inscientes, de savoirs ignorés qui sont fondamentaux. Donc, il n'y a pas que le processus didactique objectif et notionnel, il y a aussi tout le reste. Donc ça, c'est important. C'est à lui d'élargir le clavier de l'écriture. C'est son rôle. C'est son rôle d'humaniste. C'est son rôle de... C'est presque sa déontologie. Il est là pour fabriquer des êtres humains, des êtres de culture, qui vont devoir apprécier et tolérer toutes les productions culturelles du monde et de l'humanité. Donc ça commence déjà par l'ouverture aux différents modes d'écriture. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'il ait la force, je ne sais pas comment, de faire en sorte que les élèves parviennent à se connaître de mieux en mieux. C'est parce que l'élève va tester différentes pratiques en se disant « Tiens, là, je suis à l'aise. Tiens, là, je suis moins à l'aise. Ah, là, je suis vraiment à l'aise. Là, je suis moins à l'aise. » Qu'il va finir peut-être par se découvrir un profil ou à se découvrir plusieurs profils pour plusieurs sujets donnés. Mais en tout cas, se connaître. Et donc, si l'école, ça peut être aussi une manière de se connaître, connais-toi toi-même, c'est une manière aussi de faire de la maïeutique et de faire de la philosophie. Donc, tout ça débouche sur la tolérance. Et voilà. Donc, je crois qu'il est là aussi le travail de l'enseignant. Faire que les élèves se connaissent de mieux en mieux, plutôt que d'imposer des profils. Je n'ai pas de grille à proposer. Désolé.
Avec les élèves en difficulté, on sait bien que cette démarche-là, elle vient beaucoup de l'enseignant.
Bien sûr.
La maïeutique dont vous parlez.
Bien sûr. Dans le cas d'Olivier, on voit bien que le brouillon, la réécriture du brouillon n'aurait rien donné, que le gamin se serait épuisé à réécrire.
Merci. Une question que je me suis posée, c'est est-ce que le langage graphique que vous proposez n'a pas permis finalement aux enfants, n'a pas créé une passerelle entre l'écriture et le langage, je dirais, des storyboards, des films, etc. J'ai l'impression, plusieurs fois en voyant les schémas, de me dire, mais ces enfants, ils sont en train là de reprendre instinctivement des processus de création qu'ils ont vus à l'écran pour les traduire en écriture. Est-ce que vous avez pu tester ça un peu d'une manière ou d'une autre ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a en effet des dessins. Je ne pouvais pas vous montrer tout le catalogue. Bon, j'ai fait quelques articles, même si je ne suis pas un spécialiste de didactique, mais dans des revues didactiques, je pourrais toujours vous donner les références où j'ai montré un peu l'ensemble de ces dessins. Certains, en effet, s'inspirent carrément de jeux de Game Boy, s'inscrivent dans la vidéosphère, ce qu'on appelle généralement la vidéosphère. Évidemment que c'est une source de connaissances et de savoir. Alors, il y a les partisans qui disent « si, on peut apprendre à écrire une intrigue, un récit en faisant un jeu vidéo », c'est vrai. Et puis d'autres qui vont dire « c'est très dangereux pour les ados », etc. Et il est vrai que ça construit un certain rapport à la narrativité et à l'imagerie, l'imagerie mentale même. C'est évident que ça en fait partie. On pourrait créer des connexions. De même, j'ai pas eu le temps de le faire, mais il faudrait le faire. Que faire avec les TIS? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire avec les TIS, avec une écriture programmatique. À Saint-Brieuc, on a pourtant quelqu'un qui peut faire ça très bien. Ce serait d'avoir un écran, et puis ébauche, fiche personnage, croquis, et puis pouvoir naviguer entre ces continents, avoir son espace numérique de travail, et pouvoir les mettre en interaction. Donc, je dirais que la dimension hypertextuelle, elle va très bien dans une écriture de type programmatique.
Et alors, je ne peux m'empêcher de vous dire que en voyant votre travail, j'ai pensé à un travail que j'avais fait quand j'ai fait mes études, donc il y a déjà quelques années, sur les enveloppes jaunes de Simenon. Et notamment, on avait travaillé sur les anneaux de Bicêtre, pour laquelle il a fait toute une recherche avec énormément de schémas, des plans de restaurants, etc. Donc là aussi, c'était vraiment très, très intéressant.
Oui, oui, tout à fait. Les écrivains sont nombreux, hein, Pérec et bien d'autres, à faire des dessins, des croquis, des schémas. Notre souci, c'est à la fois de voir en quoi la discipline critique génétique peut apporter quelque chose, et en même temps de voir en quoi les outils peuvent être autonomisables. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de quand on n'a plus besoin de Simenon, on n'a plus besoin de Pérec, on n'a plus besoin de Zola, pour que les élèves dans la classe aillent naturellement vers un croquis.
Oui, mais est-ce que l'inverse n'est pas intéressant? C'est-à-dire, une fois qu'ils l'ont fait, leur dire, mais regardez, vous avez fait comme. Parce qu'alors, ils liront différemment. Et il y a une reconnaissance de leur travail et de leur personne en tant qu'auteur. Je pense que ça, c'est très important.
C'est absolument essentiel. Parce que c'est vrai qu'on a eu ce rapport aux écrivains qui était un rapport totalement idéalisé et qui stérilisait complètement les élèves. Ils disaient, moi, j'écrirai jamais comme Proust, je suis un gros nul à côté, etc. Alors c'est pour ça que je crois que les écrits de référence sociaux des écrivains ne doivent pas être amenés au début comme des modèles, en disant voilà, Zola fait des dessins, Simenon fait des croquis, on va faire comme lui. Mais qu'à un moment donné, quand en effet les compétences sont là et que les élèves sont assez solides, leur dire mais vous n'êtes pas différent dans vos pratiques des problèmes qui se posent à un écrivain, qui sont des problèmes concrets. Comment je place mon personnage ? Comment je fais pour que les deux personnages se rencontrent, sachant que j'ai un obstacle entre les deux, il y a un mur, je fais un trou dans le mur. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi le travail d'un écrivain. C'est toute une espèce de cuisine permettant la faisabilité, la vraisemblance du récit, etc. Alors, je dirais que ce qui serait idéal pour moi dans les années à venir, ce serait de pouvoir penser l'articulation du programmatique et du processus. Parce que ça, c'est essentiel. Il faut aller ensuite plus loin. C'est-à-dire aller du côté du brouillon rédigé, premier jet, deuxième jet. Alors, on a commencé à le faire, et là où c'était intéressant, c'était que quand on avait fait le premier ou deuxième jet, qu'on présentait les choses aux élèves, alors ils disaient, ah ouais, là, en fait, tu veux nous prendre comme ça, à contre-pied, parce que tu veux nous montrer un personnage qui est horrible et monstrueux. Et là, l'élève disait, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu montrer au contraire que c'était un gentil personnage. D'ailleurs, regarde, je l'ai mis dans mon projet. Tu vois, regarde, j'ai mis les adjectifs, j'ai mis ceci, mes intentions n'étaient pas celles-là. Et donc, du coup, on élargit encore le schéma de la communication littéraire, hein, avec d'un côté la production, la réception, et le retour de la réception vers la production. Parce qu'on sait, même chez les écrivains, que la réception, elle intervient dans le laboratoire d'écriture. Hein, que Zola dit, faut plus que je fasse des femmes hystériques, j'arrête pas de me faire enguirlander par telle et telle critique. Donc, les élèves, c'est pareil. Ah, un tel, il m'a dit que mon personnage, il était bon, alors que j'ai voulu faire un personnage méchant. Il faut donc que je change les choses. Et voyez comment cette dynamique élargit et nourrit complètement le projet d'écriture de l'élève.
Mais Yves Nadon, au Québec, travaille très fort comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez son livre sur l'écriture.
Non, je ne connais pas, mais ouais,
je suis preneur. Il essaye vraiment de s'inspirer des démarches d'écrivains, justement, avec les enfants, dans ce travail, dans cette cuisine, comme vous dites.
Oui, oui, ouais, tout à fait. Je crois que ça fait partie des stratégies possibles de notre didactique de l'écriture.
Peut-être une autre remarque pour faire le lien avec ce que font certaines équipes INRP. Cet ensemble d'écrits pré-rédactionnels que tu nous montres, il se trouve que d'une part, ce sont des outils et des écrits pré-rédactionnels, donc qui en cela préparent une production, mais d'autre part, ce sont aussi en soi des écrits. Et je me demande si justement, quand on s'interroge sur l'aide qu'on peut apporter, la façon de construire ce rapport à l'écriture pour les élèves, s'il n'y a pas aussi, je ne me le demande pas, je suis à peu près convaincu que les pistes existent déjà, si apprendre à utiliser du papier et un stylo pour faire des listes, faire des dessins, stocker de l'information, prendre des notes, etc., avant même qu'il y ait la moindre visée rédactionnelle, ne serait pas la première étape à franchir. C'est-à-dire si le travail qu'on peut faire dans les classes les plus petites, hein, justement, on a parlé de cycle 2, de cycle 3 aussi, si apprendre à faire des listes, apprendre à noter des anecdotes de la vie quotidienne, apprendre à dire quelle est ma couleur préférée, apprendre à recopier les paroles d'une chanson, apprendre, etc. Donc apprendre à utiliser l'écrit de cette manière-là, qui est une manière justement un petit peu informelle, un petit peu éclatée, qui petit à petit peut prendre sens par rapport à un projet rédactionnel, mais peut-être pas toujours, peut-être qu'il faut attendre. Je me demande si ce n'est pas tout simplement la première étape, c'est-à-dire une entrée dans l'écrit qui est, selon la citation de Lacroix ce matin, une façon de préparer les fagots ultérieurs, quoi.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Il y a, dans ces écritures programmatiques, il y a des scénarios virtuels qui sont mis en stock et qui ne seront utilisés que beaucoup plus tard. C'est certain, hein. Non, mais je crois que ces écritures programmatiques, il faudrait les développer à long terme, c'est-à-dire dans des classes. Commencer tôt et puis suivre des élèves jusqu'à la terminale. Et alors là, on aurait quelque chose d'autre. On aurait quelque chose d'autre. Mais si ça devient un outil ponctuel, utilisé un mois ou deux, ou une espèce de kit d'écriture, t'arrives pas, tiens, fais un dessin, ça marchera pas, quoi. Dès le départ, c'est foutu. Comme tout outil, d'ailleurs. À partir du moment où il se systématise, forcément, il se nécrose. C'est pour ça que j'ai vraiment mis les freins en disant c'est pas la panacée, c'est pas universel, mais malgré tout, ce sont des outils qui sont là et qu'il faut explorer, qu'il faut exploiter.
Oui, la question que je me pose, c'est sur la place en fait des écrits des écrivains dans l'ensemble de ce projet, parce que les montrer au début, ça peut bloquer les élèves, et en même temps, il me semble que dans la première case de la croix là, des quatre cases, dans la mise en liste de mots, il y a là quelque chose de très fort à jouer du point de vue de la mise en mots, puisque si on veut relier la démarche programmatique avec l'autre démarche de processus, et ce qui a l'interaction, c'est la mise en mots et quels mots vont utiliser les élèves à un moment donné. Et dans cette première liste là, en effet, on peut proposer aux élèves, il me semble, de mettre la liste des mots qui leur viennent en tête, et puis à un moment donné, on peut venir nourrir cette première liste par des lectures. Et donc ça pose la question des lectures qui sont faites avant, montrer comment, et puis de ce qu'on montre après. Et là, pour moi, ça reste un... En effet, ça devient du long terme, mais il me semble que la séquence n'est pas assez large pour prendre en compte ce processus. Je ne sais pas ce que...
C'est pas sûr. Hein. C'est, ce que je vous montre là, c'est ponctuellement un document, parce que l'enseignante a fait sa séquence sur 3 semaines consacrée à la description. Et sur les 3 semaines, il y avait quand même la place, en effet, pour loger quelque chose qui relève, en effet, de l'intertextualité, des mots des autres, etc. Et par exemple... Elle a travaillé sur le stéréotype de Lille, mais pas au début. Alors, c'est un choix. Est-ce que je travaille sur le stéréotype de Lille au début, puis après, je leur demande leurs mots? Bon, alors, évidemment, on est là sur des micro-temporalités. Mais enfin, pour moi, c'est important. Je préférais avoir le premier jet des élèves sans modèle. Des modèles anciens, des modèles souterrains, etc. Et on voit bien comment leurs obsessions sont là, hein, la grotte, le fabuleux, le machin. Et puis ensuite... nourrir avec ce qui relève, oui, bien sûr, de la culture sur la description en général. Et donc, peut-être donner même les champs lexicaux qu'on attend sur une île. Oui. Mais ces espèces de fameuses leçons de mots qui sont dans les programmes ne peuvent pas véritablement aboutir à un projet d'écriture si elles ne sont pas accompagnées de tout le reste du vocabulaire dont un élève a besoin pour écrire. Et ce n'est jamais simplement le vocabulaire de la maison, le vocabulaire de la santé, etc., etc. Donc, évidemment, oui, bien sûr que l'apport sur les stéréotypes de Lille, sur les représentations de Lille chez les écrivains, tout ça, ce n'est pas en contradiction. Bien au contraire. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait un élève africain dans cette affaire, et cet élève africain n'a pas du tout rempli le tableau. Il a rendu feuille blanche. Je lui dis, mais pourquoi tu rends rien ? Pourtant, tu as écrit un texte. Et j'ai lu son texte. C'est un texte merveilleux. Il n'y avait que des métaphores. l'île n'était que, qu'un bouquet de métaphores. Donc, il faut qu'il y ait aussi le respect de ça, de rendre le programme blanc. Et l'écriture programmatique l'accepte, le tolère. Ça ne veut pas dire que sur un autre projet, il ne va pas noircir le papier, d'ailleurs. Mais à ce moment-là, sur celui-là, il a fait ça. J'insiste sur la souplesse. Évidemment, complètement d'accord. Mais vous voyez, avec ce projet-là, j'aimerais que, justement, il n'y ait plus de contradiction, de tension insoluble entre les modèles généraux, entre les textes des auteurs et la posture du sujet scripteur. C'est pour ça que je parlais aussi de dialogisme ce matin et de polyphonie. Les mots de à soi et les mots de l'autre vont finir par se marier. Il faut arriver à ça.
Alors, cette posture-là, est-ce que c'est pas la posture qu'on pourrait appeler épilinguistique, c'est-à-dire qui n'est ni dans le faire complet, voilà, on est à la manière d'eux, et on ne réfléchit pas à ce qu'on est en train de faire, on n'est pas non plus dans une posture méta qui est sans arrêt en train d'analyser les processus et qui met à distance le sujet de sa production, alors que la posture épi permettrait de laisser la place au sujet avec une distance médiane, celle de la manipulation verbalisable.
Sinon, donc, verbalisée. Si vous voulez l'appeler comme ça, épilinguistique, plutôt que métalinguistique, tout à fait, en vous référant à. Par rapport à épilinguistique, il y a une théorie derrière, vous avez
dit. Ce serait proche de Gombert, de reprendre les théories de Gombert et de se dire qu'il y a là quelque chose dans la manipulation du langage qui permet de savoir quelque chose de la langue. Et c'est savoir. J'attendais que vous utilisiez le terme quand vous avez. Oui. Mais voilà, c'est celui qui était en filigrane pour moi, à savoir la question de ces savoirs non conscientisés, mais pourtant utilisés dans les écrits, et que l'échange, ou bien ces écrits-là, les écrits que vous proposez, permettent de verbaliser à un moment donné dans ce que vous avez appelé le métalangage propre à l'élève.
Ah oui, oui, ce métalangage incorporé me paraît absolument essentiel. Un métalangage, je crois qu'on est complètement raide sur cette notion du métalangage ici chez nous, mais complètement raide. Je veux dire, le métalangage peut prendre la forme d'une métaphore. Je peux dire, j'ai envie d'écrire une histoire qui soit fleur. Une histoire fleur. Je peux, j'ai le droit, c'est du métalangage. Je peux décider qu'un métalangage, qu'un texte métatextuel, ce soit la caricature ou la parodie ou le pastiche d'un autre texte. Faire la parodie ou le pastiche d'un texte initial, c'est une manière de le commenter, d'une certaine manière, en faisant la parodie. Donc, les formes du commentaire sûr et ne passent pas forcément par une terminologie rhétoricienne. Et ça, je crois qu'on a des efforts à faire là-dessus. Parce que, justement, avec le couvert de la technologie ou la technicité rhétoricienne, en fait, on chasse la sémantique. On chasse le sens et l'implication du sujet par rapport à une expérience esthétique. Mais d'accord pour épilinguistique. Flaubert disait une poétique insciente. Voilà. Poétique insciente et puis linguistique, tout à fait, pour rejoindre Gombert.
Alors, ce qui est intéressant en suivant, j'ai beaucoup aimé votre communication parce qu'elle est très stimulante du point de vue de, pour moi au moins, de penser les choses, de voir comment la didactique, l'écriture évolue, comment on repense, comment on reformule les choses. Et je ne connaissais pas du tout votre travail, et là je vais commencer à lire, je vais voir qu'est-ce que vous avez déjà fait, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je connais bien presque tous les auteurs que vous avez cités, Penloop, j'ai déjà parlé, j'ai lu, j'ai même une thèse au Portugal qui a été faite dans la même ligne, disons, théorique des écrits extrascolaires et le rapport avec l'écriture scolaire. Je connais très bien aussi l'auteur de Brouillon, Catherine Favre. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir vos dispositifs aussi, mais aussi après le dialogue. Et ce que j'étais en train de penser, c'est comme il est difficile de voir les frontières entre vos dispositifs pluriels que vous avez en France. Parce que vous avez commencé pour noter et pour marginaliser quelques principes, quelques présupposés, pour enfin ériger votre dispositif idéal, disons. Mais à la fin, en dialoguant avec vos collègues, vous avez venu pour dire que beaucoup de choses que vous aviez marginalisées, finalement, il fallait les retenir dans votre dispositif. Et c'est ça que je voulais voir. Non, je ne dis pas ça pour vous montrer des contradictions, ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est pour voir comment c'est difficile de construire une didactique de l'écriture. C'est pour voir ça. Et comment il est possible de mettre là-dedans plusieurs choses. C'est la façon dont on les organise et la façon dont on systématise cette façon de faire qui va faire toute la différence, je pense. J'ai été enseignante à l'école et au lycée pendant 25 années. Je travaille à la fac il y a 10 ans. Alors, et sur la didactique de l'écriture, j'ai déjà 7 personnes qui ont fait un doctorat sur la didactique de l'écriture et dans différentes lignes. Et je vois que c'est ça. C'est très difficile parce que, par exemple, quand on vous demande alors quelle est la place des écrivains dans le dispositif, justement, vous aviez dit, mais l'écrivain, c'est pas un modèle, on peut pas. Mais là, vous venez, mais bien sûr, il faut aller le chercher, ses idées. Et c'est ça que je pense que c'est pour moi, qui est un peu dehors, disons, de votre culture. C'est très intéressant de voir ça. Je ne vois pas si vous comprenez ce que je veux dire là-dessus.
Je le comprends trop bien.
Je ne veux pas. Je connais bien Barré de Mignac, je connais bien Reuters, je connais tout le dispositif qu'ils ont construit depuis Eva, j'ai tout lu sur Eva, les écrits, les listes de vérification, tout ça. Non, quand je dis ça, c'est pas, oh, je connais bien, non, c'est ce qui m'a beaucoup influencé, c'est surtout parce que je suis venue plusieurs fois, les modèles, disons, et français. Et là, c'était ça, c'est pour vous dire que c'était mon impression, que c'est difficile. Même la recherche a des contradictions là-dessus, sur cette question. Et comprendre profondément un dispositif, c'est très complexe. Par exemple, là, quand vous dites, ah, demandez à un enfant, faites un dessin. Par exemple, là, à partir de ce que vous nous avez dit, c'est une réduction totale de ce que vous avez voulu nous dire. Mais c'est ça aussi le risque qu'on sait quand on construit des dispositifs, et moi j'en ai un aussi, que c'est complexe. Bon, c'était ça. C'est pas une question, c'est seulement pour donner mon impression. Mais j'ai bien aimé votre suivi et ce que vous nous avez montré ici. Oui.
Bon, merci. La semaine prochaine, je suis à Lisbonne pour un colloque, mais sur autre chose, sur Zola.
Ah, c'est à la faculté de lettres. Oui,
oui, tout à fait, avec Kelly Basilio, oui, vous connaissez. Ouais. Donc, ce sera une autre casquette, mais oui. Pas si loin de, finalement de ce qu'on dit.
Non, c'est différent.
C'est un peu différent. Ouais. Alors c'est sûr, j'avais l'impression d'entendre... la lecture du démon de la théorie d'Antoine Compagnon. Hein, on chasse le sens commun et puis il revient de toute façon après la théorie. Oui, bien sûr. Mais quand Pénac écrit comme un roman, il dit, voilà, c'est pas une théorie, c'est pas un modèle, et pourtant, on peut pas s'empêcher, ça part dans la nature et puis ça devient un modèle et qui finit par se scléroser, etc. Les choses nous échappent forcément, mais il faut quand même les faire, il faut quand même les proposer. Il me semble que, je ne sais pas s'il y a vraiment contradiction, je crois que le problème c'est que la pensée tourne toujours autour de mêmes notions, de mêmes concepts. Le nombre de concepts reste limité, il faudra attendre beaucoup beaucoup d'années pour que des concepts neufs émergent de ceux que nous ont donné la sémiologie, la narratologie, les sciences du langage. On est là-dessus, on est dans cette épistémologie-là. Donc on fait avec. Après, je pense que la critique génétique est présentée ici dans ces travaux d'une manière un peu originale, un peu neuve, et qu'on n'est plus dans un modèle descendant. C'est pour ça que ce matin, je disais, il ne faut pas que les archives des écrivains restent aux mains des généticiens. Il faut s'en emparer, même si on n'est pas l'expert et le spécialiste. C'est trop grave, c'est trop important comme question pour que ce soit eux seulement qui puissent avoir l'autorité de parler de ça. Donc moi, je lance ça justement aux enseignants, aux didacticiens, pour qu'ils s'en emparent, pour qu'ils aillent aussi du côté des écrivains et du côté du brouillon. Alors après, la question de « faut chasser les écrivains, le modèle des écrivains, ils reviennent finalement », c'est des questions de dosage, c'est des questions de degré. Ce sont des questions de degré. Dans ma réflexion épistémologique, j'ai tendance à ne pas être dans les oppositions. Mon esprit ne fonctionne pas de façon binaire. C'est-à-dire, en fait, même si j'ai fait ma thèse avec Philippe Hamon, je ne suis pas vraiment fondamentalement structuraliste. Parce que la binarité, l'opposition, m'intéresse moins que le graduel. C'est-à-dire la façon dont quelque chose peut se décliner entre un plus et un moins. Et c'est un peu ce continuum que j'ai essayé de mettre en place. On ne va pas supprimer les écrits des écrivains, les manuscrits des écrivains. Ce serait absurde. Ce serait penser que l'élève, une vision innéiste, et que l'élève possède en lui tous les schémas. C'est faux. On a besoin de ces recours à des écrits sociaux, des écrits culturels. Sauf qu'à un moment donné, il faut peut-être les apporter à un certain moment, avec un certain dosage, selon certaines modalités. Au fond, c'est la question non pas de la matière, mais de la manière.
Pour revenir sur cette question, tu as fait une excellente réponse à notre collègue. Pour revenir sur cette question des modèles qui se sclérosent ou qui se nécrosent, comme tu le disais tout à l'heure, je pense quand même que les modèles prêtent plus ou moins le flanc à la nécrose. Je me souviens de l'introduction d'un colloque sur l'écriture à l'INRP à l'époque où il était encore Udulme, donc ça remonte à quelques années, c'était la dernière année je crois, et le colloque était introduit par une intervention de Michel Fayolle, une note de Claudine Garcia Deban et Yves Rotter. Or, aussi bien Fayolle que Garcia Deban se réfèrent à des modèles qui sont extrêmement, qui tiennent en une page, quoi. Et la grille Eva, ça tient en une page. On a une page et on a tout compris. C'est-à-dire tout le système se déploie sur une page. Et ça, ce sont quand même des outils qui sont merveilleux pour la nécrose. C'est-à-dire que ça se transfère très très bien, ça s'enseigne très très bien, ça se met bien sur une diapositive, ça se photocopie parfaitement, ça se transporte et ça se fige d'une manière absolument idéale, on ne peut pas rêver mieux. Et Rotter, justement, s'était un petit peu inscrit en faux et ça avait beaucoup agacé les intervenants précédents en disant « mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un modèle ?» en didactique de l'écriture. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tout entrer dans un schéma? Moi, ça me paraît être une question extrêmement pertinente. Et je ne connaissais pas Olivier, je ne l'avais jamais rencontré, j'avais lu quelques articles de lui, en particulier le numéro de repère que tu as en partie coordonné, enfin, co-coordonné. Et je me reconnais complètement dans ces propositions, qui sont des propositions d'une grande ouverture et d'une grande souplesse, parce qu'au fond, ce que tu nous montres, c'est une piste qui entre en complément avec d'autres, qui peut certainement être pervertie, puisque tout peut l'être, mais qui ne tend pas la perche à la perversion, en quelque sorte. C'est-à-dire, si on retient bien ce que tu nous as dit, il y a un certain nombre de zones floues relativement ouvertes, comme effectivement la place du brouillon d'écrivain, qui peut devenir, qui est actuellement beaucoup dans les manuels, une espèce de fétiche qu'on exhibe, etc. Pourquoi pas? Tu ne dis pas que c'est complètement... De toute façon, on ne peut pas tenir longtemps là-dessus. Hein. Je veux dire, une fois qu'on a montré deux brouillons d'écrivains, on ne peut pas tenir une année de formation d'écriture là-dessus. Donc ça peut être effectivement un repère à un moment. Mais même si c'est un tout petit peu sacralisé, fétichisé, ça ne peut pas occuper l'imaginaire d'une classe pendant très très longtemps. Par contre, ce que tu nous as proposé comme dispositif, les quelques exemples que tu nous as proposés dans la deuxième partie de ton exposé, sont ouverts à d'autres formes de, quand tu parles de pré-rédactionnel, quand tu montres des dispositifs qui justement sont multimodaux et incluent différentes façons d'entrer dans la page d'écriture et différentes façons de faire précéder l'écriture, tu ne nous as pas dit que la liste des activités pré-rédactionnelles était close. À nous de continuer dans cette direction-là et d'inventer des dispositifs complémentaires. Donc moi je crois que là on est justement dans des propositions qui illustre ce que je crois qu'on pourrait attendre de ce séminaire et qui illustre aussi, je crois, l'étape où nous nous trouvons aujourd'hui dans la didactique de l'écriture si le ministère de la Recherche ne nous coupe pas la tête. C'est-à-dire que nous sommes à une époque où effectivement Nous avons connu des périodes de durcissement idéologique sur des points qui étaient des formes de réponse à l'étape précédente. Hein. On est allé trop loin dans un sens, donc il fallait revenir, etc. Et selon la bonne vieille maxime léniniste, pour redresser un bâton, il faut le tordre dans l'autre sens. Ici, on n'en est plus là. On est dans une période post-léniniste, justement, et pré-rédactionnelle. Mmh. Et donc, on est vraiment dans un stade d'ouverture où on peut accueillir de manière assez consensuelle et assez... On peut accueillir des éléments nouveaux, variés, qui vont se compléter. Et il y a une place pour l'expression écrite de type freiné, je veux dire, qui est quand même... effectivement, l'expression écrite de type freiné avait pu conduire, dans les années de l'après-guerre, à des dérives complètement spontanéistes et creuses. Je crois qu'il ne s'agit pas de revenir à freiner, mais revenir à freiner quand on a lu Eva, c'est pas tout à fait la même chose que être dans freiner avant d'avoir lu Eva. Autrement dit, on peut chacun fabriquer des petits cocktails qui sont extrêmement ouverts, extrêmement souples, et qui peuvent véritablement aider les élèves à construire des activités rédactionnelles pertinentes. Ça ne veut pas dire qu'après ça, la recherche est terminée et qu'on aura trouvé. Ça veut dire qu'on avance doucement, mais peut-être de façon plus synthétique qu'on ne l'a fait dans les périodes précédentes.
Oui, ce qui est tellement difficile. Mais ce que je me demande aussi, c'est il y a un dispositif ou il peut en avoir beaucoup ou plusieurs dispositifs?
Bon, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Alors combien de dispositifs? Une infinité? Parce qu'à partir du moment où on mettra une limite et une borne au modèle d'écriture, alors on aura sondé le cerveau humain, il n'y aura plus qu'à tous devenir des robots. Donc le réel échappera aux modélisations, et tant mieux. Alors, je crois qu'on est en effet dans une époque qu'on pourrait dire synthétique ou syncrétique, c'est-à-dire que les grands modèles qui étaient ceux du structuralisme et... de la sémiologie et de l'architecture des textes, etc. Bon, tout ça, on le sait, ça a existé, c'est important. Il était important de passer par là. Aujourd'hui, on se rend compte peut-être qu'on a ciblé sur certaines données et qu'on en a éliminé d'autres. Donc, l'approche est un peu syncrétique. Bon. C'est vrai que l'approche que je propose, malgré tout, a une origine. Son origine, elle est généticienne. Elle doit s'assumer comme telle. Elle est naturaliste, c'est-à-dire que derrière, il y a quand même le modèle du roman naturaliste. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que j'ai essayé de cacher l'historicité de mon modèle. Mais je pense que je ne mens pas en faisant ça. C'est-à-dire que je pense que le modèle d'écriture qui est bon modèle répandu chez des écrivains, c'est vrai, mais la génétique a mis Zola, c'est pas pour rien. C'est vrai qu'il est quand même très représentatif, et c'est vrai qu'il y a une orientation à pédagogiser ou à didactiser Zola, plus qu'un autre, plus qu'un Flaubert. Bon, donc le modèle a un ancrage historique du côté du roman naturaliste. Et si on essaye de comprendre pourquoi cet écrivain a fait une écriture à programme, il y a peut-être des raisons intellectuelles, cognitives et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi une raison qui est politique. C'est qu'à l'époque, les écrivains naturalistes doivent prouver aux bourgeois qu'ils travaillent. Et donc montrer leurs manuscrits, montrer leurs dossiers préparatoires, etc. Que le roman naturaliste est le roman des romans, celui qui va ouvrir son cadre pour intégrer toutes les formes, le monde entier, le Second Empire. Donc, le savoir encyclopédique, ont besoin d'être intégrés, ça suppose un certain outillage, une certaine technologie romanesque. Ça fait partie des caractéristiques du modèle que je propose. C'est pour ça qu'il y a certains élèves qui ne vont pas rentrer dedans. Parce que, justement, il reste en filigrane à l'arrière-plan cette coloration historique. Mais je l'assume tout à fait. Parce que ce que je propose n'a aucune visée universalisante. Ce ne sont pas des modèles de processus rédactionnel généralistes. Je m'inscris dans la critique génétique, donc pour nous, c'est le matériau qui est le point de départ. L'approche est empirique. On ne cherche pas à trouver des modèles généraux sur Flaubert, Balzac, Zola et Aragon, parce que à chaque modèle général, il faudrait un cas particulier. Donc, on y va modestement sur la génétique comparée. Mais on est sensible aux matériaux. On est sensible à la singularité de l'auteur. même si, évidemment, il y a des modèles des repoussoirs et de l'intertextualité. Et c'est ça aussi qui crée un petit peu la différence. Donc, ce modèle-là est un modèle historicisé. Et ça, du coup, ça relativise aussi mon ambition.
Ou au contraire.
Hein? Sans regret. Sans regret.
Très intéressant, ça, je ne savais pas.
C'est important, il faut le dire.
Oui, très important.
Bien sûr que c'est important.
Logiquement, je trouve que c'est très important.
C'est très important, mais on peut extraire de l'histoire des formes et voir comment des formes se déploient aussi dans l'histoire. Et ce sera intéressant d'écriture, d'étudier l'écriture programmatique de Zola, et puis ensuite de ses descendants, de ses petits frères, que sont par exemple les écrivains des romans fleuves, les écrivains des séries romanesques, Romain Rolland et tous les autres. Ça, ce serait intéressant aussi.
Oui, tout à fait.
Mais bon, je ne veux pas monopoliser la parole et je pense qu'il faut clore pour passer à autre chose. Mais ce dont je vais parler, je ne vais pas vous le faire la communication, évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais ce dont je vais parler à Lisbonne, c'est justement de voir en quoi le modèle de l'écriture programmatique a été, je crois, de façon assez erronée, figé par la critique génétique comme étant une certaine architecture du dossier préparatoire. Et qu'en réalité, on s'aperçoit que sur la durée de ces trois cycles romanesques, les Rougon-Macquart, les Trois Villes, les Quatre Évangiles, plus de 30 années d'écriture, la technologie romanesque de Zola a évolué. Et que son métalangage lui-même a évolué. Et pour quelle raison ? Ben pour la simple raison que, me semble-t-il, qu'un écrivain pris dans des contraintes sérielles est toujours confronté à un problème, ce qui est le suivant. Je veux fidéliser mes lecteurs, donc je dois leur resservir les procédés qu'ils adorent. Donc, il faut bien un peu d'érotisme, il faut bien un peu de ceci, un peu de cela, un peu les milieux, un peu ceci, un peu cela. Mais en même temps, si je me répète et que je ne suis pas dans la variation, je vais lasser mes lecteurs. Donc, il est confronté à un cahier des charges très complexe qui l'oblige à pousser en avant sa méthode sans la trahir, mais en même temps sans se répéter. Et donc, du coup, sa technologie romanesque a évolué. Et ça, la critique génétique ne l'a jamais pris en compte. Ça fait partie de la contextualisation sérielle. C'est pour ça que je propose, pour Zola, l'étude diachronique, et non plus simplement synchronique, de chaque dossier, les uns après les autres, mais l'étude diachronique de sa technologie romanesque. Et avec ça, redéfinir ce que j'appelle le concept d'autodidacte écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain autodidacte, au sens où je l'entends, c'est celui qui ne cesse de développer des auto-apprentissages experts dans le domaine artistique qui est le sien. Ce ne sont plus les apprentissages du jeune Zola, que Colette Baker a très bien étudié jusqu'en 68, mais je demande à Colette, dis-moi Colette, après 68, qu'est-ce qui se passe ? Zola n'apprend plus ? Après Thérèse Raquin, il n'apprend plus ? Tout ça pourquoi ? Parce qu'il est une gloire littéraire ? Non, il y a une trajectoire d'artiste, seulement nous ne savons pas ce que c'est qu'un apprentissage chez un artiste. Mais pourtant, Baudelaire et d'autres nous disent, j'ai appris à faire ça, j'ai appris à faire ceci, signe qu'il existe des apprentissages qui ne sont pas enseignables. Et c'est ces apprentissages-là qui m'intéressent dans une approche diachronique de la technologie romanesque d'un Zola.
Simplement, j'aurais voulu savoir, parce que vous mettez sans cesse l'accent, et vous avez raison, sur l'importance de la réception et sur le lien que vous établissez entre ce que font les écrivains et ce que ferait un élève dans le cadre d'une écriture littéraire. Première demande, est-ce que vous avez pensé à transposer le dispositif de l'utilisation de manuscrits d'écrivains ou de penseurs dans le cadre d'autres disciplines, notamment scientifiques, puisqu'il y a des recherches aussi sur les carnets des scientifiques? Et deuxième question, au niveau de ce retour évaluatif, en fait, de la production par la réception, comment est-ce que les enseignants, eux, interviennent ? Quel est le retour des enseignants sur ces écritures à processus ? Est-ce qu'ils sont complètement en retrait ou est-ce qu'ils interviennent ? Est-ce que je me fais comprendre ?
Écriture à programme, je pense.
À programme, enfin. Est-ce qu'il y a un retour de l'enseignant qui juge ou qui intervient avec l'élève et non pas simplement médiation sociale des élèves entre eux ?
Bah, vous posez un vrai problème. Et je vais vous dire, sans vous raconter ma vie, quand je suis arrivé à Rennes, je suis parti, parce que j'aime tout le monde, a priori, je suis parti du côté du rectorat pour aller travailler avec une IPR, par ailleurs très sympathique. et qui avait envie, écoutant mon travail, lisant quelques articles, de poursuivre la recherche. Et nous avons essayé de réunir quelques enseignants autour de nous. L'affaire a capoté. L'affaire a capoté parce que d'abord, l'IPR, à peine avais-je expliqué la démarche, qu'elle me disait tout de suite comment on évalue. Et je dis, un programme, ça ne peut pas s'évaluer comme on évalue une production finale. On peut imaginer des tas de principes pour évaluer un programme, mais en même temps, un programme a le droit d'être justement est maladroit, est mal exprimé, est brouillon, et un programme raté fait parfois un très beau livre. Donc, on ne s'est pas compris, parce qu'elle était dans le pragmatique, et elle avait raison, c'était son boulot, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les classes? Et moi, je n'étais pas dans cette démarche-là. Alors, donc, la question de l'évaluation du programme, elle se pose. Si je vous dis la capacité à verbaliser des intentions, ça peut être un critère d'évaluation, vous allez me dire, pas forcément. Pas forcément. Peut-être que le programme ne doit pas s'évaluer. Ou alors il doit s'évaluer en termes d'efficacité, de rentabilité. Mais si on me rend un programme très beau, qui n'aboutit, qui n'accouche que d'une phrase, qu'est-ce que je fais? Si on me donne un programme de deux mots, qui aboutit à un roman de 150 pages, qu'est-ce que je fais? Donc la question de l'évaluation, dans le cadre où on pense aujourd'hui l'évaluation, elle ne me paraît pas intéressante en fait. Pour moi, le programme est intéressant s'il est génératif. Ce que j'apprécie, c'est qu'un programme soit génératif, c'est-à-dire qu'il y ait des mots, des lexiques divers, variés, un croquis, qui génèrent de la créativité, qui génèrent du sens, qui génèrent du discours, et c'est cette dimension qui me paraît importante, qu'elle soit heuristique, qu'elle soit générative. Après, on peut évaluer le produit final, avec les mêmes critères que la grille EVA, si on le souhaite. Mais on peut les évaluer autrement en rapport avec le projet aussi. Alors, la question de l'intervention de l'enseignant. Pour moi, l'intervention de l'enseignant, elle est dans le fait que l'enseignant apprend à connaître ses élèves. Je trouve que le programme au lycée, tout comme le programme qu'on a vu à l'école, permet aux étudiants de découvrir autrement les élèves, à travers des protocoles verbalisants, à travers des problèmes qu'ils se posent, à travers la manière dont ils abordent un projet. Tout ça me semble permettre de découvrir autrement les élèves. Et même des choses du genre, aujourd'hui on est au collège, qu'est-ce que je m'embête, j'ai pas envie de le faire ce cahier, vraiment, je m'ennuie. Donc c'est une manière de connaître autrement ces élèves à travers leurs pratiques de recherche, leurs protocoles verbaux, etc. Et puis, du coup, sur le plan didactique, l'identification de problèmes d'écriture. Ça me paraît fondamental. Et c'est des problèmes d'écriture qui peuvent avoir différents niveaux d'incidence. Le niveau orthographique, tiens, peut-être que je devrais mettre mon texte à l'imparfait. Alors, je le mets à l'imparfait ou je le mets au présent? L'enseignant attrape ça et dit, tiens, dans ton cahier, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Tu voulais mettre ton texte à l'imparfait et pourquoi pas au présent? Et là, ah mais oui, vous comprenez, le présent, ça fait bébé. Le présent, ça fait bébé. Oui, c'est à la petite école qu'on écrit au présent. Mais moi, je veux le mettre l'imparfait, pas assez simple, parce que ça fait écrivain. Ah bon? D'où il vient ce cliché-là? Tu veux que je te sorte des textes d'écrivains qui sont au présent? Tu vas voir. Donc, c'est une manière aussi de déconstruire des stéréotypes sur la littérature. Un élève qui dit, tiens, je ferais bien telle description, tiens, mais non, je ne vais pas le faire parce que ça ressemblerait à tel film que j'ai vu. C'est une manière de mieux connaître la culture de nos élèves et de penser que leur culture, ce n'est pas simplement la culture scolaire. Donc, il y a en effet quelque chose d'indirectement autobiographique dans le cahier journal dont nous parlons. Un jour, j'étais à l'IMEC pour faire un travail sur les dessins d'écrivains et je suis tombé sur la présentation d'un cahier de Novarina. Et ce cahier journal était exactement ce cahier journal-là, avec le programme d'un côté et les intentions d'un côté et le rédactionnel de l'autre. Et là, je me suis dit, oh ben mince alors, j'ai rien inventé, c'était déjà là. Vous voyez ? Donc, l'idée qui est derrière, qui est l'idée que Catherine Tauvron avançait aussi, c'est l'idée qu'il y aurait un continuum entre le scripteur débutant et le scripteur expert. C'est ce continuum qu'on essaye d'étudier. Est-ce que c'est vraiment un continuum? Est-ce qu'il y a des fractures? Est-ce qu'il y a des différences? À quel niveau? Mais si on imagine qu'il y a un continuum, alors on peut attendre d'un élève qu'il nous fasse une production qui puisse être lue comme un texte littéraire. Et dans l'article, justement, de la revue Repère, nous avions fait ce travail avec des élèves de lycée. Lire la copie du copain autrement qu'à travers la grille cohérence, cohésion, orthographe, mais à travers peut-être ses intentions. Et, alors, intention de l'auteur ou intention du texte, on ne va pas revenir sur cette question-là, mais en tout cas dans une lecture littéraire qui serait celle de n'importe quel texte d'écrivain. Et on voyait les élèves se décomplexer. Et ça leur fait du bien. Et ça donne du sens. Et ils aiment faire ça. Donc, je finis juste en un mot, c'est que je crois qu'il faut décomplexer la complexité. C'est aller aux antipodes des programmes actuels qui nous disent qu'il faut aller du simple au complexe. Je crois au contraire que nous sommes, dans le rapport à l'écriture et à la littérature, dans une simplification outrancière qui complexifie beaucoup les choses pour les élèves. Décomposition, morcellement des tâches, etc. Et que du coup, il faudrait décomplexer la complexité. En l'accompagnant comme il faut, évidemment, par le dispositif pédagogique qu'il faut. Mais la complexité, elle existe. Nous ne sommes pas des êtres simples. Écrire n'est pas un geste simple qui se ramène, comme tu le disais, à une formule, à un modèle qui tient sur une page. En même temps, il faut pouvoir modéliser, il faut pouvoir transmettre, il faut pouvoir enseigner dans les séminaires. Donc c'est ça la difficulté. Il faut viser la lune pour atteindre la cime de l'arbre. Et je crois qu'aujourd'hui, la politique, elle nous dit surtout ne visez pas la lune. Regardez vers le sol. Allez, la pause s'impose.